Bon, après, est-ce qu'il aurait continué comme ça pendant 4 ans? Personne ne peut le savoir. Mais je pense que là, il y a une scission, disons, entre Jaurès, qui était, je pense, on peut le qualifier comme ça, révolutionnaire, mais un révolutionnaire républicain, c'est très important. Jaurès dit toujours, il n'y a pas de socialisme sans la République et de République sans socialisme.
Alors, on va maintenant parler du Jaurès pacifiste. Ce Jaurès pacifiste qui va se faire assassiner le 31 juillet 1914 au Café du Croissant, rue Montmartre, et puis ce sera le leitmotiv de la belle chanson de Jacques Brel. Comment devient-il pacifiste et l'est-il vraiment pacifiste?
Alors, je soutiens l'idée, moi, que Jaurès est plus que pacifiste. Parce que, au sens, disons, un peu ordinaire du terme, pacifiste, c'est quelqu'un qui ne veut pas de la guerre, qui a horreur de la guerre, tout sauf la guerre. Il y a même eu des pacifistes, on le sait, en 1940, qui n'étaient pas pour s'engager, même contre...
Pétain l'était à sa façon.
Il disait aux gens, vous allez pouvoir être tranquille, restez chez vous, vous n'avez pas... Bon. Et donc, il a arrêté la guerre des Français contre l'Allemagne nazie. Hein. Donc, je pense que ce n'est pas ce pacifisme-là, Jaurès. C'est un pacifisme, moi, j'ai essayé de suggérer que c'est quelqu'un qui redoute la guerre, parce qu'il a en tête l'évolution de la société. On l'appelait, dans la presse qu'il a accablé et qui a armé le bras de l'assassin, R. Jaurès. C'était
on l'a fumé. Ça veut dire au sens que c'est un Allemand.
Un Allemand. Oui, bon. Oui. On l'a fumé du casque à pointe. Bon. Pourquoi? Mais parce que Jaurès a toujours combattu la stratégie qui se mettait en place de l'alliance franco-russe contre l'Allemagne. Et il a vu venir de très loin la guerre. Par exemple, en 1904, il y a la guerre russo-japonaise. Et Jaurès, tout de suite, stigmatise cette guerre. Pourquoi? Parce que cette guerre, c'est la première guerre de tranchées. C'est la première guerre de baïonnettes. Il reçoit des télégrammes de Pétersbourg, dont il fait état dans ses écrits, Jaurès, où il explique comment, là-bas, il y a des ruisseaux de sang dans les tranchées. C'est en 1904. L'humanité vient à peine d'être créée. Donc, Jaurès, en fait, entrevoit la guerre de 14-18, les baïonnettes, les tranchées, le sang qui coule, etc. Donc il sait que la guerre européenne va être la guerre russo-japonaise multipliée par 10. Et c'est ce que je dis de Jaurès, là, à un moment donné, c'est un voyant. Alors, ce n'est pas un devin, j'appelle ça, j'ai intitulé ce chapitre, un voyant raisonneur. Il y a un article extraordinaire de 1912 qui s'appelle « Sinistre leçon », dans lequel ils disent « Si Chauvin de France et Chauvin d'Allemagne, jeter les deux nations l'une contre l'autre, des violences sauvages souilleraient pour des générations entières le regard et la mémoire des hommes. »
C'est ce qui s'est passé.
C'est exactement ce qui s'est passé. Bon, mais surtout, il entrevoit au travers de ça la mémoire et le regard des hommes souillés, c'est quoi? C'est l'après 14-18. C'est ce qui va se passer avec le traité de Versailles, c'est la montée de l'hitlérisme. C'est-à-dire que ce que Marc Ferro parfaitement montré, à un moment donné, ça a été la matrice de la violence du XXe siècle.
Bien sûr. Son côté visionnaire que vous soulignez et son courage ont été grands. Parce que dès la fin du XIXe siècle, on prépare cette guerre. Et il y a une propagande absolument monstrueuse qui gagne tous les moindres recoins de la société, des cœurs, de la propagande, de tout le monde. Donc, y échapper, y résister, c'est un courage et c'est le risque d'une marginalisation. Est-ce qu'il était seul sur cette ligne-là?
Ben, il n'a pas été vraiment seul parce que le Parti Socialiste, pendant toute une période jusqu'à juillet 14, et les socialistes allemands aussi, hein, Liebknecht, tout ça, ont été contre les projets de guerre. Mais, comment dire, c'est un mouvement qui était relativement isolé parce qu'il y avait la question du patriotisme qui a été absolument terrible. Dans le livre, j'ai essayé de montrer, bon, c'est un peu vite dit, mais après tout, il n'y avait pas de raison de tourner autour du pot. Il y a le différend terrible avec Péguy. Péguy dira un jour, le premier à fusiller si la guerre éclate, ce sera Jaurès, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un revolver dans notre dos. Or, Péguy, c'est un ami de Jaurès, c'est un socialiste, un admirateur de la Révolution française, très grand écrivain, très grand esprit. Et je dis, mais qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'un Péguy en arrive à dire ça de Jaurès? Eh bien, c'est que c'était l'exaltation nationale, nationaliste. Vous savez, Péguy, il y a une chose incroyable, c'est qu'il dit aux soldats, vous allez aller vous battre comme vos ancêtres se sont battus à Valmy. À Valmy, c'est-à-dire, il crée une espèce de figure pour 1914 qui renvoie à celle de la Révolution française, des sans-culottes, de Valmy. Et donc, je dis que, par exemple,